France. Selon l'OMS, environ 6% des personnes atteintes de Covid-19 présentent ensuite une forme prolongée de la maladie, ce que l'on appelle un Covid long. D'ailleurs, très difficile de définir exactement ce qu'est un Covid long. On connaît les conditions pour pouvoir entrer sous le vocable Covid long, mais on ne connaît pas peut-être suffisamment aussi le nombre de personnes qui seraient atteintes de Covid long, tant les symptômes sont nombreux et parfois aussi des symptômes que l'on peut lier à tant d'autres maladies. C'est bien l'une des problématiques de ce Covid long aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas souvent inaperçu ou sous les radars parce que à la fois les patients s'ignorent, mais aussi les professionnels de santé ne pensent pas forcément immédiatement à la possibilité d'un Covid long lorsqu'ils sont mis face à des symptômes du type fatigue, burn-out, en tout cas ce que l'on assimile à un burn-out, dépression, mais aussi des problématiques liées au cardiovasculaire, des problématiques liées au système digestif, parce que oui, le Covid long, c'est multifactoriel et multisystémique. Alors on va en reparler.
Les patients long Covid entre eux se reconnaissent très vite, beaucoup plus vite que les médecins. Ils se retrouvent pendant un an, deux ans dans une situation où on leur raconte « vous avez fait un burn-out, mais vous êtes anxieuse, vous avez fait une dépression, vous avez un trouble autistique ». J'ai tout lu, moi. Mais tous ces gens, ils sont en deuil d'eux-mêmes et ils ont des interrogations terribles sur eux et ils n'osent pas dire ce qu'ils sont devenus. La plupart de mes patients, dont mes 300 patients actuels, sont dans la tranche d'âge 20-60. Ils sont tous en arrêt de travail. Ils ont tous perdu leur capacité à assurer leur subsistance. Ils n'osent pas venir dire ça à un médecin.
Et c'est là tout le fait de ne plus avoir de vie du tout. Le fait de faire des malaises, d'être faible en permanence. La dernière fois, mon chien a essayé de s'enfuir parce que je suis dans un nouvel appartement. J'ai fait 5 pas en courant et je me suis évanouie tout de suite. Et après, je me mets à trembler à terre, j'arrive plus à me relever. Avant, j'étais championne de roller, j'étais championne de jeux vidéo qui nécessitaient beaucoup d'énergie, beaucoup d'endurance. J'avais une endurance de fou et maintenant, je suis à l'opposé total. Ma vie, c'est plus de la vie, c'est de la survie, c'est juste réfléchir à ce que je vais faire et à quel point ça va me faire du mal en fait.
Parce que oui, le Covid long impacte encore aujourd'hui de nombreuses personnes. La découverte d'une bactérie protectrice contre le Covid long, ce qui est une jolie avancée quand même pour toutes ces personnes qui aujourd'hui souffrent de ce Covid long. C'est très difficile de définir exactement ce que c'est un Covid long en fait. Leïla.
Tout à fait, parce que c'est un ensemble de symptômes qui peuvent être très variés. Il y a la fatigue, mais aussi pour certains, c'est plutôt au niveau de la respiration. Les personnes sont plus essoufflées. D'autres, c'est des troubles cognitifs, des problèmes de concentration, ce qu'on appelle le brouillard mental. Il peut y avoir aussi, j'entendais le témoignage de la jeune dame, donc ce qu'on appelle des phénomènes de dysautonomie, donc l'organisme qui ne sait plus forcément réagir correctement à un stress. Et la condition pour parler de Covid long, c'est que cela survienne dans le décours justement de l'infection par le SARS-CoV-2, donc le Covid, et il faut que les symptômes durent, alors selon les définitions, au moins 2 mois ou 3 mois après l'épisode aigu. Mais c'est vrai que c'est un ensemble de symptômes à la fois variés et qui parfois peuvent se retrouver aussi dans d'autres pathologies. Et donc c'est ça l'enjeu, c'est de bien diagnostiquer le Covid long pour ne pas non plus passer à côté éventuellement d'autres choses.
Mais à l'époque, il existait des tests pour le Covid. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des tests simples pour tout un chacun pour savoir si on est ou non dans le cas d'un Covid long ?
Non. Donc il y a beaucoup d'études et de recherches à ce niveau-là. On voit qu'il y a en général, les personnes qui souffrent du Covid long ont ce qu'on appelle des marqueurs inflammatoires qui sont augmentés, mais il n'y a pas un test bien défini qui permette de dire voilà, cette personne a le Covid long et cette personne ne l'a pas. Donc c'est plutôt un faisceau d'arguments avec des symptômes, des plaintes, certains éléments quand les personnes ont du mal à respirer. Parfois on voit qu'au niveau des capacités pulmonaires elles sont réduites, mais ce n'est pas toujours le cas non plus. Il y a des tests neurologiques qui peuvent être faits, etc. Mais donc c'est vraiment plus des arguments clinique de symptômes dans un contexte effectivement d'avoir eu un antécédent de Covid.
On parle d'une période effectivement de 2 à 3 mois. Mais un Covid long, ça peut perdurer dans le temps, évidemment. Et on a des cas de Covid long qui perdurent depuis des années avec des personnes qui, aujourd'hui, sont avec différents types de souffrances qui les handicapent au quotidien. Et vous l'avez dit, l'une des problématiques, c'est que ces éléments pris séparément n'éveillent pas forcément l'attention sur un Covid long. Et donc, nécessite aussi des spécialistes. On va voir son spécialiste pour une pathologie, une fatigue, par exemple, ou un désordre musculaire, ou bien un désordre cardiaque, par exemple. Et la personne qu'on a en face de soi ne va pas forcément penser immédiatement à un Covid long. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de 400 000 patients en Belgique, on pourrait en fait en avoir beaucoup plus.
Je pense qu'il y a un phénomène aussi un peu de errance en effet médical. Les patients parfois s'attardent sur un symptôme et c'est vrai que parfois on reçoit en consultation des gens qui ont déjà été voir plein de spécialistes avec une frustration qui survient aussi dans certaines situations où le bilan cardiaque pris séparément, il est normal. Le bilan, on a fait un scanner cérébral, il est normal. On a fait des épreuves respiratoires fonctionnelles, elles sont normales. Mais les patients ne sont quand même pas bien. Et donc, c'est là aussi toute la difficulté. C'est que parfois, les outils que nous avons à l'heure actuelle pour faire certains types de diagnostics ne sont pas suffisamment précis ou performants. Et donc, les patients se retrouvent démunis parce qu'on leur dit tout est normal. Mais en fait, eux ne se sentent pas bien. Ils ne sont réellement pas bien. Ils sont en difficulté, pour monter des escaliers, pour marcher, ils sont fatigués, ils n'arrivent plus à se concentrer. Et donc, avoir une personne de référence qui, à un moment donné, peut faire le lien avec tous les symptômes et se dire « Ok, là, on est dans la définition. On a exclu d'autres choses sur lesquelles on peut agir. On est dans la définition du Covid long. » Donc déjà, donner le diagnostic, parfois, ça peut aider. Mais on reste quand même très désemparé en termes de propositions thérapeutiques. Et ça, ça a un impact aussi psychologique.
Qu'est-ce qu'on connaît du mécanisme de ce Covid long ? Pourquoi cette maladie perdure-t-elle chez certaines personnes ? Qu'est-ce qui se passe dans l'organisme qui fait que chez certains, on va se débarrasser du Covid et chez d'autres, pas ?
Il y a à la fois beaucoup de choses que l'on connaît et beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Oui. Laure pourra parler de la bactérie dont vous parliez tout à l'heure. Enfin, il y a beaucoup d'études sur la physiopathologie, donc sur les mécanismes sous-jacents. C'est probablement un mélange de plusieurs choses, avec soit le système immunitaire qui surréagit et qui finalement, au lieu de se contenter, entre guillemets, d'éliminer le virus, produit trop d'anticorps, tout le reste au niveau des paramètres inflammatoires qui surréagit. Donc, il y a probablement de ça, plus le microbiote qui peut être aussi, ça fait partie des hypothèses perturbées, ça leur y reviendra. Donc, il y a vraisemblablement un faisceau de choses qui ne se passent pas bien dans l'organisme. Alors, pourquoi certaines personnes et pas d'autres ? C'est quelque chose qu'on rencontre aussi dans d'autres maladies infectieuses. Donc, il faut savoir qu'on en parle beaucoup maintenant avec le Covid parce que ça a été une pandémie, qu'il y a eu des millions de personnes qui ont été atteintes et donc ça a révélé aussi un nombre de personnes important. Mais le fait que dans le décours d'une infection, qu'elle soit virale ou bactérienne, un pourcentage de patients gardent, après même que la bactérie ou le virus ait disparu, des symptômes cognitifs, de fatigue et autres, c'est quelque chose qu'on voyait déjà comme infectiologue. Et peut-être que Laure pourrait expliquer le rôle de cette dysfonction, de cette dysbiose qu'on peut avoir.
Qu'est-ce qui se passe dans le corps, en fait ?
Alors, il se passe énormément de choses, d'où la difficulté de définir quelle est la chose qui est nécessaire et suffisante pour déclarer un Covid long. Ici, nous, on s'est surtout intéressé au microbiote, au microbiome nasopharyngé, c'est-à-dire dans le fond du nez, dans le fond de la gorge. Et on a essayé de déterminer si, en fait, l'écosystème des micro-organismes qui se trouvent naturellement dans le nez pouvait avoir un impact sur, justement, le fait de présenter des symptômes qui persistent ou qui se résolvent assez rapidement. Donc on a typé en fait des patients au moment de l'épisode aigu sur la composition de ce microbiome nasopharyngé et on a essayé de voir comment est-ce qu'ils évoluaient dans le temps, au long cours. Ça c'est surtout en clinique qu'ils ont vu, mais nous on a déterminé justement cette composition du microbiote et l'abondance relative, comme on appelle ça, donc quelles sont les bactéries les plus présentes ou les moins présentes dans le nez des patients. avec les écouvillons qu'on a tous fait à l'époque. Et là, on s'est rendu compte que, en fait, chez ces patients qui allaient développer, donc à ce moment-là, on ne savait pas qui allait développer ce phénotype, il y avait une perturbation, une dysbiose, comme on appelle ça, au niveau de la sphère nasopharyngée. Et on a réussi à identifier une bactérie et d'autres bactéries qui sont associées à cette bactérie, qui semblaient protégées, en fait, qui étaient associées, en tout cas, avec une réduction de ce risque de présenter des symptômes persistants. Oui.
Mais ça veut dire que, si je vous entends bien toutes les deux, une personne qui développe des symptômes persistants n'a plus forcément la bactérie, en tout cas pas la bactérie originelle ou celle qu'il a attrapée au départ dans son corps.
Alors, en tout cas, nous, on a regardé à deux moments c'est ce qui se passait dans le nez. On a regardé au moment de l'infection aiguë,
oui.
Au moment où là, on a testé pour le Covid. Chez les patients, elle y est chez certains patients, et surtout de manière plus abondante que d'autres. Et ceux qui avaient une abondance plus faible, donc qu'il y avait moins de cette bactérie dans le nez, ben on a vu qu'il y avait un risque de développer des symptômes persistants qui étaient exacerbés chez ces patients-là.
D'accord. Mais ce virus qui vient, il devient quoi? Est-ce que... Alors, c'est pas inimaginable, hein. On sait par exemple que le virus du paludisme, il se transforme. il se transforme dans le corps, il se cache, il noie un peu le poisson pendant plusieurs années. On a différentes maladies comme ça. Est-ce que c'est le cas ou ce sont des pistes de recherche aujourd'hui qui sont explorées?
Pour le Covid et pour le SARS-CoV-2, c'est une des pistes, mais la littérature débat encore à ce sujet.
C'est ça.
Donc, il me semblerait en effet que chez certains patients, on ait l'impression en tout cas que le virus soit persistant ou en tout cas se retrouve là X mois voire années alors qu'il n'est plus censé être là. Après, il y a toute la distinction entre ce qu'on retrouve du matériel génétique du virus par rapport à du virus qui est capable de se répliquer. Ça fait partie vraiment des pistes que soit le virus encore capable de se multiplier soit encore là, ou des particules du virus, mais en tout cas qui entretiendrait un phénomène inflammatoire aussi. Mais ce mécanisme-là, lui seul, n'explique pas. Donc probablement que c'est ce qu'on appelle multifactoriel, qu'il y a plein de choses qui font qu'à un moment donné, ben, malheureusement, certaines personnes continuent à payer le prix de cette infection initiale par rapport à d'autres.
Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce que je vous écoute. Qu'est-ce qui fait que ce qui se passe dans mon nez, le microbiote que j'ai dans le nez, va avoir des répercussions sur mon état global, sur la fatigue, sur la dépression, sur les problèmes intestinaux, sur tout ce qu'on a déjà cité depuis le début?
Alors, c'est justement la question qu'on a essayé d'explorer. En fait, la barrière d'entrée du virus, c'est au niveau de la sphère respiratoire. Et ces bactéries ont montré avoir certains effets, soit directs, soit indirects, sur l'infection. Donc, soit elles arrivent à bloquer, justement, l'entrée du virus, ou du moins freiner l'infection, soit par des mécanismes directs, soit indirects, en agissant directement sur l'immunité. Et comme l'a dit Leïla, finalement, le Covid, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on voit quand même qu'il y a un état altéré, et effectivement le fait de jouer sur cette immunité et sur l'inflammation, peut-être que cette bactérie pourrait effectivement jouer un rôle dans cette espèce de déséquilibre immunitaire ou inflammatoire chez ces patients.
On va voir pourquoi ce n'est pas du tout anodin que d'avoir découvert cette bactérie, parce que aujourd'hui c'est une vraie lueur d'espoir aussi pour tous ces patients qui aujourd'hui sont soit en attente d'avoir des informations plus concrètes, de la compréhension aussi par rapport à ce qu'ils vivent parfois depuis plusieurs années. On en reparlera après une page de pub. On retrouvera aussi un extrait du documentaire.
Beaucoup de choses qu'on ne dit pas, beaucoup de choses qu'on a du mal à dire. Donc voilà, c'était intéressant pour moi de me pencher sur cette question-là et d'aller à la rencontre des gens. En fait, c'est un film qui va à la rencontre des gens et qui écoute leurs témoignages. L'idée, c'était de faire un tour d'horizon aussi, à travers toutes les générations, pour voir un petit peu ce qui ressort de chaque tranche d'âge. On a tous vécu la pandémie de manière très très différente. Et pour beaucoup, on a essayé de tout cacher parce qu'on n'avait plus du tout envie d'y penser. C'est toujours un peu difficile d'ailleurs de faire cet exercice, d'y retourner. C'est pour ça que ce film, c'est un mélange à la fois d'archives, ouais, de reconstitution, donc les gens qu'on a interviewés se replongent dans cette période-là, et aussi un mélange de où on en est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on garde. Et la question qui est derrière et qui m'a semblé aussi intéressante, c'est de se dire, est-ce qu'on a aussi tiré des conclusions de cette période-là?
Et dans votre cheminement, vous avez aussi rencontré, et c'est ça qui vous a donné l'idée de faire un autre documentaire sur lequel vous commencez à travailler maintenant. Vous avez rencontré des personnes qui ont souffert et qui souffrent encore de Covid long.
Oui, tout à fait. Et ça, ça a été vraiment une rencontre déterminante. Parce qu'en fait, c'est pas seulement des gens qui souffrent, c'est des gens qui sont conscients qu'ils souffrent et qui ne peuvent pas dire qu'ils souffrent. C'est la première fois que je fais un documentaire où les gens viennent vers moi en disant « j'ai envie de témoigner ».
Oui.
C'est la première fois. Surtout quand c'est des personnes qui sont en difficulté physique et psychologique. Parce qu'en fait, ils sont tellement peu écoutés que quand on leur parle, quand on leur pose des questions sur leurs conditions, ils sont là « mais oui, oui, je veux témoigner ». Et encore hier, je recevais deux appels de personnes qui me disent « j'ai envie de faire partie de votre film ». C'est la première fois que ça m'arrive en documentaire. En fait, ils ont tous des choses différentes. Parce que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le virus continue de circuler dans le sang, que leur système immunitaire ne réagit pas bien. Et donc, en fait, le virus peut aller se loger dans différents organes et c'est ce qui rend le diagnostic de cette maladie compliqué. Et ça, c'est peut-être un des enjeux majeurs de cette année, de ces mois-ci, des mois à venir, c'est de reconnaître enfin cette maladie, d'en parler et de créer des ponts avec le monde académique. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de ponts qui sont créés entre les patients, les médecins, le monde académique et le monde de la recherche. Tous les chercheurs font des bribes de recherche, chacun dans leur coin, et il n'y a pas de mise en commun. Et parmi les personnes que je suis pour mon documentaire, il y en a justement qui ont été interpellées. Le Sénat est en train de faire une commission pour auditionner les acteurs majeurs qui travaillent dans la recherche en ce moment. Et c'est ça qu'on leur demande. Donc là, le 11 mai, par exemple, il y aura une audition au Sénat de chercheurs pour leur dire « mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire mieux ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux prendre en charge ces patients et mieux les écouter ?» Donc c'est très poignant quand on entend des témoignages comme ça. Et c'est ça qui m'a poussée à faire le deuxième documentaire. Parce que je me suis dit, en fait, c'est aussi une maladie qui nous bouscule sur un plan sociétal. C'est qu'est-ce qu'on fait quand il y a une maladie qui émerge? Comment notre société, elle prend ça en charge? Comment on écoute ces gens? Comment on leur fait confiance?
Extrait donc de l'interview que nous avons réalisée hier avec Marie.
Qu'il doit y avoir aussi plus de ponts et qu'il y a des ponts quand même qui existent. Ça dépend évidemment aussi des équipes, ça dépend des moyens. Enfin, faire de la recherche, ça coûte de l'argent. Faut...
Oui.
Ça, ici, on a eu la chance d'avoir un financement via la Fondation Saint-Luc et un mécénat par Sofina qui a permis justement de dégager des fonds financiers pour mettre en place toutes les analyses. Et Laure les expliquera bien moi, avoir un doctorant qui était payé pour ça, parce que le problème de toute la recherche aussi clinique et quand elle veut se lier avec de la recherche fondamentale, c'est que nous comme cliniciens, moi je vais parler vraiment comme clinicienne, c'est que le travail au quotidien à l'hôpital, lui il ne s'arrête pas,
oui.
Il ne s'arrête pas parce que on doit faire de la recherche. Or, on est en première ligne pour pouvoir aussi proposer justement aux patients en disant, ben voilà, ça nous intéresse, on aimerait étudier parce qu'on aimerait, on espère trouver des pistes pour aider d'autres de patients. Donc il faut à la fois le temps pour bien soigner, il faut le temps pour informer, il faut le temps pour recruter éventuellement des patients, des malades, et puis alors après faire le pont avec la recherche qui est plus fondamentale.
Parce qu'au départ, c'est vrai que c'est une rencontre entre vous.
Financière, les fonds de la recherche sont quand même assez limités.
Ouais.
Donc là, comme dit Leïla, on a eu la chance d'avoir le soutien d'un mécénat d'entreprise de la Sofina via la FSL, la Fondation Saint-Luc. Mais en fait, le souci aussi est de bien poser la question de recherche, parce que la question de recherche va aussi driver les outils qu'on va utiliser derrière.
Oui.
Qu'est-ce qu'on va déterminer chez qui, pendant combien de temps? Parce qu'on ne peut pas avoir une vision de ce qui se passe chez le patient qui est holistique et qui est temporelle aussi. Il faut choisir les bons moments. Et ça, évidemment, nous, au labo, n'étant pas en contact avec les patients et ne sachant pas quels sont les points clés, on a besoin des cliniciens pour alimenter notre réflexion. Après, nous, on a des outils. On peut dire aux cliniciens, ça, on est capable de le faire, ça, on n'est pas capable de le faire. Et au final, c'est en fait un travail, on va dire, de coordination, de compétences et de cerveau pour pouvoir arriver justement à répondre à la bonne question au bon moment.
C'est ça.
Question qui nous est arrivée au 0471. Pourcentage de malades qui ont le Covid long, qui étaient vaccinés ou non?
Il y a des études pour ça justement qui ont montré l'impact bénéfique de la vaccination. Il y a pas mal de vraiment d'études qui sont sorties par rapport à ça. Après, il y a aussi l'impact du changement de variants. Hein, donc on sait on pense en tout cas qu'a priori il y a eu moins de Covid long sur l'ère Omicron par rapport à l'ère Delta et pré-Delta. Donc à la fois l'enjeu de la vaccination, à la fois l'enjeu des variants, mais le fait que la vaccination, parce qu'en fait, vous faites moins a priori d'infection, ou en tout cas moins symptomatique, donc l'hypothèse sous-jacente, moins de réactions aussi inflammatoires, et donc moins un risque d'avoir des symptômes longs. Donc c'est pas un effet protecteur à 100%, loin de là, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas, il y a clairement des données qui ont montré que la vaccination avait aussi un effet bénéfique sur l'incidence du Covid long.
Ça l'a dit. Donc elle se coordonne,
c'est ça.
Et on voit qu'il y a une surreprésentation, une surabondance de 4 ou 5 bactéries qui ont l'air de bien s'entendre ensemble et qui sont, on parle de corrélation négative avec des bactéries plus pathogènes. Donc elle, en gros, c'est pour ça qu'on a dit qu'elles étaient protectrices, même si ici on n'a fait qu'une association statistique, hein, mais on montre effectivement qu'il y a une espèce de corrélation entre les bactéries. Plus on a de bactéries bénéfiques, moins on a de bactéries pathogènes.
C'est ça. On va détailler, évidemment. Vous avez l'occasion de découvrir sur leur site beaucoup d'informations, d'échanges aussi, et des témoignages, comme celui d'Isabelle.
Les plus fréquents, cette fatigue, en fait, une fatigue qui n'est pas une fatigue où on a envie simplement de dormir, c'est une fatigue écrasante, terrassante, qui, on fait fonctionner notre corps avec une batterie vide.
D'accord.
Donc, le corps pèse une tonne, ça c'est vraiment la fatigue. Alors, il y a eu l'essoufflement, il y a eu des troubles, enfin, j'ai personnellement en tout cas des troubles cognitifs, donc des problèmes de mémoire, surtout à court terme, des problèmes de concentration, donc dès qu'il faut suivre une conversation un peu plus longue, voilà, lire quelque chose, un texte, enfin voilà, tout ce qui demande de la concentration est compliqué et demande pas mal d'énergie. J'ai des problèmes de vue, des problèmes neurovisuels, des douleurs thoraciques, je l'ai dit, des nuits...